Alors, pendant qu'on accueillait les gens, il y a quelqu'un qui a dit parlons braille. Alors, c'est pour ça qu'on est là ce soir, pour parler de braille abrégé, d'une recommandation récente du comité d'experts sur le braille abrégé, qui est un comité du CQCB, un comité québécois de concertation sur le braille. Alors, on est là pour jaser de ça. On a, bien évidemment, il y a Antoine Perrault. Durac, qui est avec nous ce soir. Il y a aussi Janie Lachapelle de l'Institut Nazareth et Louis Braille qui fait partie et du CQCB et du Conseil d'experts sur le braille abrégé qui est avec nous pour répondre à vos questions. Je vous fais je vous décris un peu le déroulement. Alors, mot d'accueil de Simon, c'est ce que je fais en ce moment. Tout de suite après, là, je vais passer la parole à Antoine. On pourra vous faire une petite mise en contexte du travail qui a été fait, pourquoi ça a été fait. On vous présentera par la suite là, les recommandations du Conseil d'experts sur le braille abrégé. C'est Janie qui fera ça. Alors Antoine, je te passerai la parole pour une présentation de qu'est-ce qui fait qu'on est tous ici maintenant.
Merci beaucoup, Simon. Je prendrai pas beaucoup de votre temps, juste pour clarifier un peu le processus qu'on a mis en place pour être sûr qu'on est tous au même endroit sur pourquoi on est ici ce soir. Donc, ce qu'il faut comprendre, et ceux qui ont suivi le dossier depuis longtemps, vous savez que le Québec, à travers le comité d'experts sur le braille abrégé, travaille depuis de très, très nombreuses années sur un code braille abrégé. Ceux qui ont suivi le dossier, vous savez aussi que ce code-là était censé être adopté par la francophonie à travers le monde. La Belgique, la Suisse, la France, on travaillait avec plusieurs pays d'Afrique. On travaillait avec tous ces groupes-là sur un comité international et malheureusement, il y a quelques années déjà, le travail s'est arrêté et le reste de la francophonie a décidé de ne pas aller de l'avant avec le code braille qui avait été développé ici. Je vous rappelle qu'une version préliminaire de ce code-là vous avait été soumise par le RAC il y a quelques années déjà. Il y a eu une belle tournée où on a été prendre les commentaires de tout le monde à travers le Québec sur ce code-là. L'enjeu qu'on a, c'est qu'il y a plusieurs pays francophones qui ont arrêté d'enseigner le braille abrégé, qui l'ont abandonné. Nous, ici au Québec, il y a encore des enjeux où on veut que les puis nous, on l'a entendu de beaucoup de personnes sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe avec le braille abrégé? Il y a encore des documents publics produits en braille abrégé. Il y a des écoles qui continuent à l'enseigner aux jeunes. Il y a des écoles qui arrêtent de l'enseigner. L'école spécialisée Jacques Ouellet semble s'être débarrassée de sa collection de livres en braille abrégé. Qu'est-ce qui se passe? Et de là est venue une demande du RAC à l'OPHQ, au CQCB, au Comité québécois de concertation sur le braille, de réactiver le comité d'experts sur le braille abrégé pour que ce comité-là non pas nous présente un braille abrégé, mais bien nous fasse une recommandation sur l'avenir du braille abrégé au Québec. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce comité-là, ce n'est pas un comité du RAC, c'est un comité externe qui est sous-jacent au comité de concertation, le comité québécois de concertation sur le braille, et qui a travaillé à mettre de l'avant une recommandation. Donc, cette recommandation-là, elle vous a été soumise parce que le RAC, qui est membre du CQCB, comme tous les autres membres du CQCB, va devoir prendre une position sur cette recommandation-là. Eh bien, l'idée, c'est que pour que notre conseil d'administration au RAC puisse prendre une position éclairée sur la recommandation, ben, on voulait avoir l'opinion des personnes qu'on représente partout à travers le Québec. C'est pour ça qu'on a mis de l'avant cette rencontre-là. Simon l'a très, très bien dit. Je mets un peu de pouce là-dessus. Faut que vous sachiez que les commentaires que vous allez faire sont importants pour nous. Et cette rencontre-là, c'est vraiment une rencontre qui vise à répondre à vos questions, à vous présenter la démarche. Sachez qu'une fois que cette présentation-là va être faite, puis que la démarche va être répondue, les réponses, en fait, le plus possible de réponses vont être répondues. Nous, vous connaissez probablement toutes et tous Madame Laetitia Larabi qui travaille au RAC, mais je vais vous transmettre par courriel les coordonnées qu'on a mises en place pour prendre l'ensemble de vos commentaires et vous pourrez nous faire vos commentaires par courriel, par téléphone, si vous êtes moins à l'aise avec le courriel. Laetitia va vraiment bien ramener tout ce que vous avez fait comme commentaire dans un rapport qui va être déposé au conseil d'administration, qui lui aura la tâche, basée sur vos commentaires, de prendre une position sur la recommandation. Fait que je ne vous dérange pas plus longtemps que ça avec les histoires de procédure. Ça, c'est ma tasse de thé à moi. Là, comme vous avez dit, vous êtes ici pour parler de Braille. Donc, j'arrête, je relaisse la parole à Simon qui va introduire un peu Madame Lachapelle pour vous parler des recommandations.
Bon, ben merci beaucoup Antoine. Super important. Puis ça m'a fait réfléchir là, ce que tu viens de dire, c'est que j'ai oublié de me présenter. Je vais vous dire juste rapidement ce que j'ai fait. Mais en fait, je suis l'animateur ce soir, mais j'ai aussi été engagé dans cette discussion-là du comité d'experts sur le braille abrégé parce que c'est moi qui ai animé les rencontres. Fait que voilà, c'est un peu pour ça que je suis ici. Désolé de cet oubli-là, vous ne saviez pas qui vous parlait. Alors, Janie, je te passerai la parole si tu veux nous expliquer un peu, ben nous parler de la recommandation, en fait des recommandations finales, puis un peu du contexte là, finalement, des considérants qui ont fait en sorte qu'on est arrivé avec cette recommandation-là. Alors, je te passe la parole.
Ben bonsoir tout le monde. D'abord, merci Antoine de me mandater ce soir pour présenter la démarche et de présenter justement les propositions à laquelle le comité en est arrivé. Le comité d'experts, ben je me présente d'abord, Janie Lachapelle, pour ceux qui ne me connaissent pas. Je travaille à l'Institut Nazareth et du Braille au service de l'adaptation de l'information depuis 20 ans. Je suis une utilisatrice de Braille. Je produis, étant donné le mandat de notre service aussi, beaucoup de Braille depuis 20 ans en abrégé, en intégral, autant pour le Service québécois du livre adapté, entre autres, et beaucoup de matériel scolaire, plus au niveau post-secondaire, donc au niveau des cégeps et des universités. Donc, j'ai été mandatée par mon organisation et aussi par le CQCB pour être une des expertes au comité qui s'est penchée sur la question. Je vais en profiter juste simplement pour nommer mes collègues aussi qui étaient dans cette réflexion-là. Isabelle Grant du centre, on dit quoi maintenant? Du service, comment ça s'appelle? Centre de services scolaires
Veux-tu?
des Premières Seigneuries. C'est ça, c'est
Oui.
plus des commissions scolaires, c'est des centres de services.
C'est
Il
des
y
centres de
avait,
services.
c'est
Est-ce
ça,
que veux-tu,
Annick.
j'ai la liste de leur titre officiel, tout ça, veux-tu que je la lise rapidement?
Oui, vas-y donc, ça va être plus simple.
Alors, Josué Coude, spécialiste en réadaptation en déficience visuelle à l'Institut de réadaptation en déficience physique de Québec. Isabelle Grant, que tu viens de nommer, le Janie, professionnelle braille, centre de services scolaires, Première Seigneurie. Janie Lachapelle, ben alors ça c'est toi, spécialiste en activité clinique. Est-ce que ça te va comme titre? Annick Laplante, chef de groupe au secteur visuel et enseignante en soutien à l'intégration au Centre de services scolaires de Montréal. Et puis Lynne Robichaud, représentante du regroupement des aveugles et amblyopes du Québec. Je crois que Lynne est avec nous ce soir aussi. Alors voilà, je te redonne la parole, là, Janie.
Parfait. Donc, suite justement à l'arrêt des travaux sur la scène internationale, c'est passé là un petit peu pendant la pandémie, au début de l'année 2020. L'Europe, surtout les Français, nous ont fait savoir que les orientations n'étaient plus partagées dans le style de refonte ou de réforme du braille abrégé. On s'entendait pas sur le fond. Les principes fondamentaux de cette refonte-là, les Québécois, on était beaucoup plus poussés vers un allègement très significatif du braille abrégé, un peu pour rejoindre le braille anglophone qui comprend une centaine d'abréviations, d'y aller avec la fréquence de mots, un peu comme vous aviez tous là, pour les plus anciens dans le dossier, là, ce que Carmen Fontaine avait fait comme thèse de doctorat avec la fréquence des mots, avoir des abréviations qui ont une récurrence significative pour au niveau de la rétention et tout ça. Nous, on s'en allait là-dedans, on a toujours tenu cette ligne-là. On s'est rendu compte que du côté européen, surtout les Français, ils voulaient un allègement du braille 1955, mais pas aussi significatif que nous. Et il allait y avoir une énorme quantité d'abréviations, pas nécessairement reliées à leur fréquence, etc. Ce qui fait que, étant donné que les pensées, les orientations étaient très, très divergentes, les Français nous ont signifié qu'ils mettaient fin aux discussions internationales. Et on s'est retrouvés, les Québécois, irréductibles Gaulois, devant la situation, qu'est-ce que nous faisons, nous? Parce que ce code-là, ce qu'on avait développé sur la scène internationale, mais qui était notre proposition québécoise, on a toujours continué à penser qu'elle était très intéressante. Par contre, en se retrouvant seul à mettre ça de l'avant, on avait aussi des considérations de on n'est pas beaucoup. Et le fait d'utiliser un code abrégé, par exemple, unique au Québec, ben fait en sorte qu'au niveau de la diffusion des livres, du prêt des livres, on rencontrait certaines problématiques parce qu'on n'utiliserait pas le même code. Donc, le comité, on s'est assis. Et on a commencé à discuter. On avait trois propositions sur la table. On garde le statu quo avec le braille 1955, l'AEO 1955. On s'en va en braille intégral ou on adopte le braille, ce qu'on appelle le braille abrégé québécois. Pour l'instant, à l'époque, il s'appelait comme ça. On l'appelait comme ça, pour bien se reconnaître. La première proposition, ça a été rapide quand même. On a eu cinq rencontres, mais la première position a été rapidement éliminée. De conserver le statu quo, ce n'était pas possible pour nous pour plusieurs raisons. Parce qu'on sait que la quantité d'abréviation qui est à l'apprentissage est tellement significative que l'intérêt pour ce braille abrégé-là est pratiquement disparu. En faisant nous-mêmes nos constats dans nos réseaux, les nouveaux apprenants de braille abrégé dans les dernières années se comptaient sur les doigts d'une main. La majorité des jeunes qui fréquentent le primaire, le secondaire, le cégep, l'université et qui sont en mode fonctionnel braille le sont en intégral, ne sont pas intéressés d'apprendre le braille abrégé 1955 parce que beaucoup trop d'investissements. C'est des jeunes qui utilisent beaucoup les technologies, qui sont sur des afficheurs. Le besoin est peut-être moins ressenti à ce niveau-là d'avoir un code abrégé parce qu'ils vont taper, ils savent leur doigté, c'est plus vite en écriture, etc. Donc, cette proposition-là de garder le statu quo, c'était unanime autour de la table. On n'allait pas de l'avant, on l'éliminait. Ça fait qu'il nous restait deux choix, le braille abrégé québécois et le braille intégral. C'est sûr que le fait d'utiliser le braille abrégé québécois, ça amène plein de questionnements, comme je l'expliquais, sur le fait qu'on est isolé dans le style de braille qu'on va, dans la façon de transcrire le braille au Québec, ce qu'on ne veut pas, isoler nos usagers plus qu'ils le sont déjà. Et on va pas se le cacher, les technologies, depuis 20 ans qu'on parle du braille abrégé, les technologies ont beaucoup, beaucoup évolué. Et la nouvelle génération de braillistes sont très, très, très techno, vont utiliser des afficheurs, vont lire en braille, mais dans des formats que moi j'appelle qui ne sont plus dédiés. Ce n'est plus des formats braille, c'est très démocratisé, ils vont aller fréquenter Internet, vont lire des documents plus, des EPUB, par exemple, des documents Word, toutes sortes de sources qui, bien entendu, se doivent d'être accessibles, mais beaucoup, beaucoup, le nerf de la guerre est là dans l'accessibilité des sources qui sont démocratiques pour tous et qui peuvent être lues avec une synthèse vocale, bien sûr, mais sur un afficheur, sur un preneur de notes. Il y a toutes sortes de versions d'afficheurs, petits, grands, etc. Et c'est là que les jeunes consomment leur braille, je vais dire, parce que ils ont une interactivité avec le web, avec des applications et tout ça. Ça amène différentes choses, parce qu'on se dit le format dédié braille papier, j'ai toujours dit, il faut faire attention quand on parle de braille, il faut utiliser les bons mots. Non, le braille n'est pas en voie d'extinction et c'est vraiment quelque chose que je défends et que je crie haut et fort tous les jours de mon travail. Par contre, la forme que le braille prend est en train de a une mutation, un peu comme ce que je dis à tous mes clients que je rencontre et à tous les gens à qui je parle de ça. Il n'y a plus personne qui ouvre la porte le matin pour ramasser son journal papier à la porte et s'asseoir avec son café à la table pour lire son journal papier. Ça n'existe plus. Les gens vont lire le journal sur une tablette, sur un téléphone. La consommation d'écrit, même pour les voyants, change de format. Pour une portion des lectures qu'on fait dans le quotidien. Je crois aussi que le braille est aussi parallèlement touché par ça. On va consommer du braille, mais beaucoup en lien avec le web, avec le numérique qu'on appelle, etc. Donc, on s'est dit, le format dédié papier, oui, il va y en avoir. Il va y en avoir toujours. Ça va toujours être un besoin. Mais est-ce que ça va plus s'orienter vers un besoin d'éducation, de scolaire, de matériel pédagogique plus complexe comme les mathématiques, la science, la musique, etc. Et les choses plus littéraires, plus ludiques, plus justement de lecture courante vont se faire plus au niveau numérique, qui vont être des sources électroniques, etc. Et la tendance semble se dire ça parce que beaucoup, beaucoup de jeunes à l'école vont demander des formats qui sont à l'ordinateur parce que c'est sûr, transporter des fichiers, c'est beaucoup moins lourd que des gros volumes braille. Fait que les jeunes, c'est sûr que c'est dans ces optiques-là que pour eux, l'informatique, l'afficheur braille est une plus-value. Donc, on s'est dit, pour les formats dédiés, est-ce que ça vaut vraiment la peine à moyen et long terme d'impliquer un braille abrégé là-dedans? En plus, ça va être des formats dédiés qu'on ne pourra pas partager avec personne à la francophonie. Alors, on a décidé, on s'est dit, regardez, on va proposer cette proposition-là. On va rester en braille intégral pour tous les formats dédiés. Ce que j'appelle un format dédié, là, c'est vraiment du braille papier ou un format BRF, braille, vraiment là, canné dans son format braille. Mais on va proposer une table d'affichage qu'on peut installer au même titre que n'importe quelle table d'affichage dans NVDA, dans JAWS, et on va la bâtir, notre table informatique, avec notre modèle québécois. Donc, nos étudiants, nos personnes plus à l'aise avec le braille, qui ils veulent se lancer là-dedans, qui veulent l'apprendre, nos jeunes qui veulent, je sais pas, pour une lecture plus rapide, pour avoir plus de caractère sur un afficheur parce que le braille abrégé permet une contraction, etc., veulent l'avoir, ils pourront. Elle sera là, elle sera disponible à l'usage n'importe où. Et ce qui est intéressant avec cette table-là, c'est comme elle est utilisée sur informatique, l'autre question qu'on avait aussi à l'informatique quand on s'est posé cette question-là, c'est que de plus en plus, les gens vont lire dans plusieurs langues. Et on se promène sur un site Internet, on est en français, on arrive à un passage en anglais, on change de site. J'ai des étudiants qui c'est pas juste le français, l'anglais, c'est le français, l'espagnol, les langues arabes, les langues. Donc, ils vont naviguer dans plusieurs langues, ce qui fait que l'abrégé peut être problématique quand on arrive dans une autre langue, naturellement, et que notre table d'abrégé n'est pas la même. Donc, ça permettrait cette flexibilité-là de l'enlever quand on ne la veut pas, de l'appeler quand on la souhaite, je ne sais pas, pour ceux qui la connaissent moins, quand on a un afficheur, on peut directement se placer sur un mot qui, automatiquement, le mot se désabrège. Donc, tous les conflits d'abréviation, dire « Mon Dieu, comment ça s'écrit? J'ai-tu des problématiques d'abrégé? » Pour nos usagers, nos membres, ça pourrait être intéressant dans le sens où ça permet ça, l'informatique, puis on est dans l'ère des nouvelles technologies. Donc, notre proposition, c'était aussi d'essayer de sauver le beau travail qui a été fait sur la proposition du braille abrégé qui est vraiment, elle est pratiquement finale. La raison pour laquelle vous l'avez pas entre les mains ce soir, c'est qu'il nous reste des petits détails, on essaye d'éviter le plus d'ambiguïté dans les symboles choisis, juste pour vous donner un exemple, là, pour concrètement vous dire de quoi on parle. L'abréviation SS, qui est le E accent grave, dans le braille 1955, c'est le E accent grave, peut devancer la lettre E accent grave dans des mots au passé simple, par exemple. Là, il passeur, il blabla. Et ça fait qu'à ce moment-là, les deux S vont être désabrégés. On essaye d'éviter le plus possible ce genre de situation-là qui nous amène à être obligés de désabréger à cause de deux symboles consécutifs identiques. Donc, on travaille là-dessus le plus possible. On y arrive, on y est presque. Isabelle Grant, ma collègue du comité, est en train de travailler à justement les derniers tests que nous, on lit avec bonheur et avec vraiment minutie pour s'assurer que la proposition, les symboles retenus tiennent. Donc, on est là-dedans, on est à fignoler, mais c'est pas mal le même principe qui vous est présenté depuis plusieurs années sur les mêmes bases et tout ça. Et ça serait ça, la proposition. Donc, c'est sûr qu'au niveau du braille papier, du braille dédié, on serait à l'intégrale pour vraiment démocratiser ça et permettre justement, ben, tout ce qui est intégral dans la francophonie va être quand même préservé, je vais dire ça ainsi, et on va permettre un affichage en abrégé sur des moyens numériques pour venir, parce que l'avenir du braille, l'avenir de l'information pour les personnes ayant des limitations visuelles va beaucoup, beaucoup passer par le numérique. Est-ce que j'oublie quelque chose, les garçons, que je...
Moi, je pense que ça fait le tour. Là, tout le monde l'avait reçu, la recommandation, de ce que je comprends bien, mais j'aurais comme eu envie de peut-être de la. On est un peu en avance sur le planning, fait que j'aurais peut-être eu envie de la relire rapidement pour tout le monde. Ça permettrait peut-être de faire un beau, je m'excuse l'anglicisme, mais un beau recap de ce que tu viens de dire un peu pour t'sais, donc résumer qu'est-ce qui a fait qu'on arrive à cet endroit-là. Puis ensuite de ça, on pourra passer à la paire des questions. Je ne sais pas, à moins qu'Antoine, tu veux rajouter autre chose, mais j'irai de cette façon-là.
Moi,
Ça me
ça me
convient
va.
tout à fait. Parfait. Alors, je vous la lis. Je la lis. Alors, ça va comme suit. Considérant que les travaux en vue d'une réforme du code braille abrégé français ont débuté sur la scène internationale il y a plus de 23 ans, lors des accords de Casablanca en 2001, considérant que la technologie a depuis ce temps grandement évolué, rendant l'utilisation d'un ordinateur, d'un afficheur braille ou d'un téléphone intelligent accessible à une forte majorité de personnes fonctionnellement aveugles, considérant la démocratisation de nombreux logiciels et applications aujourd'hui accessibles aux personnes fonctionnellement aveugles, permettant l'utilisation simultanée d'une synthèse vocale et du braille éphémère, que de ce fait, les vitesses de lecture et d'écriture ne sont plus des avantages indéniables du braille abrégé, que de ce fait, le volume occupé par des documents physiques transcrits en braille est de moins en moins un élément à considérer étant donné le virage numérique généralisé, considérant que les travaux des spécialistes québécois ayant mené à la proposition d'un nouveau code braille abrégé français sont d'une grande qualité, considérant que cette proposition québécoise comprend une centaine de caractères pouvant être pleinement intégrés en 12 mois d'apprentissage, contrairement à près d'un millier de caractères et un minimum de 4 ans d'apprentissage pour le braille abrégé orthographique étendu de 1955, communément appelé AOE 55. Considérant que les parties liées par l'accord de Casablanca semblent avoir suspendu leur collaboration pour une période indéfinie. Ça, c'était, je fais un aparté, mais c'est un peu la façon polie de dire qu'ils nous ont dit qu'ils ne voulaient plus travailler pour que ça continue. Considérant, je recommence, je continue. Considérant l'importance historique associée à l'utilisation d'un braille abrégé, considérant l'intérêt et les préférences de certaines personnes lectrices de braille en ce qui a trait à l'utilisation d'un code braille abrégé pour certaines activités, considérant qu'il est déjà possible au sein des cursus réguliers d'apprentissage du braille ou lors d'un parcours en réadaptation d'apprendre le braille abrégé français ou d'autres codes, considérant qu'il est technologiquement possible d'afficher directement un texte intégral en différentes versions de braille abrégé à partir du moment où les tables braille informatiques nécessaires existent, considérant la désuétude du braille abrégé orthographique étendu de 1955, ainsi, il est recommandé que le braille intégral soit le seul code braille utilisé par les organismes publics dans le développement et le déploiement de toute offre de services et productions physiques et électroniques de format dédié, que les travaux nécessaires à la création d'une table d'affichage informatique correspondant à la proposition du braille abrégé québécois soient réalisés et que le fruit de ces travaux soit transmis aux organisations concernées, qu'elles soient publiques ou privées. Que le réseau, et finalement, que le réseau de l'éducation et de la réadaptation se voit octroyer les moyens conséquents à la réalisation de matériel pédagogique et de formation afin qu'apprendre à lire et à utiliser le braille abrégé québécois soit offert en option dans leurs cursus respectifs. Fait qu'on voit bien un résumé de ce que Janie vous a expliqué, puis ensuite de ça, on voit aussi je dirais pas la dualité, mais la double proposition qui est de dire braille intégral, c'est ce que les organismes publics vont utiliser, utiliseraient si les recommandations sont suivies, Mais en même temps, on se garde la possibilité et on fait des travaux en ce sens-là pour qu'il y ait un braille abrégé québécois qui soit utilisable et qui puisse être appris.